Bonjour, c'est Pascal Solière et c'est l'épisode 20 de ITcast du 23 octobre 2015. Aujourd'hui, un seul invité, Stanislas, et un seul sujet, Docker dans Azure. Tout d'abord, avec Stanislas, nous revenons sur le partenariat entre Docker et Microsoft qui se développe et se concrétise dans Azure et Windows, d'ailleurs, depuis 18 mois maintenant. Puis Stanislas nous parle de cluster de containers avec le futur Azure Container Service et le partenariat avec Mesosphere. Enfin, nous verrons que des modèles sont disponibles dès aujourd'hui pour vous permettre de déployer très simplement des clusters Docker, que ce soit des clusters Docker Swarm ou des clusters à base de Apache Mesos. Et tout de suite, Docker et Azure avec Stanislas. Donc je suis aujourd'hui avec Stanislas. Salut Stanislas.
Bonjour Pascal.
On va parler aujourd'hui de Docker et d'Azure. On en a déjà parlé, si tu te rappelles bien, l'épisode de rentrée en septembre qu'on avait fait tous les deux, on avait parlé de containers. On avait parlé de containers Docker, de containers Windows Server 2016. Et on avait un petit peu ébauché des choses avec Azure. Et il se trouve qu'on a eu des annonces récentes qui ont un petit peu complémenté tout ce qu'on a pu dire déjà sur Azure et Docker. Donc déjà, on a un partenariat Microsoft qui a été conclu avec Docker déjà il y a un certain temps. Si je ne m'abuse, le premier partenariat daté du DockerCon en 2014. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce partenariat qui a été conclu entre Docker et Microsoft?
En fait, c'est un partenariat qui existe déjà depuis plus d'un an, presque deux, je dirais, où l'idée, effectivement, était...
C'était la DockerCon
C'était la DockerCon 2014, si je ne dis pas de bêtises, la première intervention, et la deuxième, c'était la DockerCon 2015, où, effectivement, Marc Russinovitch, qui est le CTO d'Azure, est intervenu, a fait une démonstration... des solutions de Docker en environnement Azure et en environnement Windows Server, parce qu'effectivement, comme on l'a déjà raconté précédemment dans un podcast, Docker fait des développements pour Windows Server pour supporter les futurs conteneurs Windows et conteneurs Hyper-V. Donc, si on devait résumer un petit peu le partenariat qu'il y a, ou ce qu'il existe aujourd'hui, ce qui a été fait en collaboration Microsoft et Docker, donc la première chose, c'est qu'il y a une extension des API natives de Docker et des outils de Docker, pour pouvoir supporter à terme, je précise bien à terme, c'est-à-dire dès que ce sera disponible pour de la production, tout ce qui est conteneur Windows et conteneur Hyper-V. Donc concrètement, ça veut dire que depuis un environnement Docker et les outils associés, donc Docker Swarm, Docker Compose, etc., on va pouvoir en fait, l'administrateur ou le DevOps admin, le sysadmin, je ne sais pas comment on va l'appeler, pourra effectivement faire des pilotages et des orchestrations avec des containers Linux et des containers Windows. Les containers Linux Docker étant exécutés sur des machines Linux et les containers Windows exécutés sur des machines Windows, hein, principe de virtualisation d'OS. Donc dans le partenariat, on a également le client Docker, la ligne de commande, le Docker CLI, qui a été porté sur Windows. Hein, donc historiquement, il était sur Mac OS X. Et sur Linux, et donc désormais le client est disponible, la ligne de commande Docker existe également pour Windows.
Ça c'est d'ailleurs une des premières choses qu'on avait vues il y a un an et demi à la DockerCon 2014.
Exactement, et en fait à terme ce qu'on va avoir c'est qu'il y aura un client Docker unique qui permettra de gérer justement les fameux conteneurs Windows et les conteneurs Linux. Ce sera un seul client qui sera le client Docker. En gros, Docker ouvre son spectre d'activité au monde Windows et aux conteneurs Windows. On a également fait un plugin à Visual Studio 2015. Donc ce plugin, en fait, il permet à un développeur directement en fait, de construire et de publier une application. Alors, pour l'instant, on est uniquement sur les applications ASP.NET 5 ou d'une application console à destination d'un conteneur Docker qui lui-même tournera au-dessus d'une machine virtuelle. Donc c'est un plugin à Visual Studio. Aujourd'hui, pourquoi ASP.NET.5 principalement? Parce qu'il était porté en environnement Linux. Et donc, du coup, ça va bien avec les containers Docker, qui sont des containers Linux aujourd'hui.
D'accord.
On a également, dans le partenariat, une extension Docker qui est proposée par Microsoft et qui permet en fait d'instancier le moteur, le client et la mécanique Docker sur une machine virtuelle Linux qui tourne dans Azure. pour peu que cette machine virtuelle Linux soit un Ubuntu ou une distribution CoreOS. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'extension Docker.
Extension pour VM dans Azure.
Pour
au
VM
sens,
dans Azure.
Au sens d'extension de VM
exactement,
dans Azure.
Exactement. On annonce également le support de Docker Compose et de Docker Swarm sur Azure, hein, c'est-à-dire que ça, c'est prévu pour fonctionner, entre guillemets. Donc Docker Compose, hein, c'est pour faire des applications multi-containers et faire des déploiements avec plusieurs containers différents qui sont dans un même ensemble applicatif. Et Docker Swarm, c'est un mécanisme d'orchestration permettant en fait de distribuer l'exécution de conteneurs, de différents conteneurs en fait sur différents Docker hosts, c'est-à-dire différentes machines serveurs Docker entre guillemets. Donc l'idée étant de répartir comme ça les conteneurs. Dernier point, dans le marketplace d'Azure, désormais on peut directement sélectionner certaines applications présentes définies comme étant sous la forme de conteneurs. Dire par exemple, je veux déployer un WordPress ou un Jenkins ou une base de données MySQL directement sous la forme de conteneurs. Donc c'est dans le marketplace, c'est simplement en cliquant sur Create et en remplissant les bons champs sur les formulaires de demande d'information. Automatiquement, ça va générer derrière, créer une machine virtuelle Linux sur une base Ubuntu, mettre l'extension Docker faite par Microsoft. Et ensuite, instancier, télécharger les images des applications depuis la Docker Registry, donc le Docker Hub, et donc après, ensuite, démarrer ces containers. Voilà.
Donc c'est très limité comme, pour l'instant comme support dans le marketplace, puisque bon, au final, on va se trouver avec une machine virtuelle qui héberge un ou deux containers qui hébergent les composants de l'application en question.
Oui, effectivement, là, pour l'instant, on est plus sur une logique de test and dev pour pouvoir rapidement déployer une application, la tester, ou partir d'une base existante. On n'est pas encore, effectivement, sur une orchestration, une répartition de charges sur plusieurs Docker hosts, etc. Donc ça, effectivement, c'est des technologies qui sont apportées, entre autres, par Docker Swarm. Petit rappel, Docker Swarm, aujourd'hui, il est en version bien préliminaire. On est dans un monde de DevOps où ils font tourner pas mal de choses avec des versions absolument non abouties. Alors c'est bien écrit sur les documentations officielles de Docker. Docker Swarm, ce n'est pas fait pour la production. D'ailleurs, comme Docker Compose également. Donc on est sur un monde qui n'est pas encore très stabilisé. Rappelons que Docker a été créé en 2013. Donc ça a juste 12 ans.
Oui.
Ça bouge très vite, mais c'est encore très, très frais.
Et puis, pour les entreprises, les organisations qui veulent utiliser des containers, mais qui ne veulent pas utiliser le Docker Hub public,
on a également, dans le marketplace, on peut instancier une DTR, donc une Docker Trusted Registry. Donc, c'est un dépôt d'images Docker qui est privé. Donc, c'est-à-dire qu'il il n'est pas exposé à tout vent. Il est sous la forme d'une machine virtuelle avec tout à l'intérieur. Et on peut passer par des authentifications un peu plus particulières, LDAP ou autre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pour les entreprises, les organisations qui ne veulent pas en fait déposer leur image publiquement sur le Docker Hub.
Voilà, donc on a tout pour déployer des applications simples, mono, VM, etc. dans Azure, pour se faire la main un petit peu sur les technologies, avoir une registrie, etc. Maintenant, il y a une étape supplémentaire qui doit être franchie. Et notamment, il y a eu une annonce donc à la dernière AzureCon, la conférence Azure fin septembre.
En fait, il y a même une annonce en fait qui a eu lieu avant, qui était le prémisse en fait finalement de ce qu'on a annoncé à l'AzureCon. On a eu une annonce en fait le 20 août 2015, qui était une annonce entre Microsoft et une entreprise qui s'appelle Mesosphere, où l'idée effectivement d'amener une technologie d'orchestration. Pas uniquement sur le monde Linux, parce qu'aujourd'hui elle existe sur le monde Linux, mais également sur le monde Windows.
Alors je préviens les auditeurs, là, si vous ne connaissez pas du tout le monde Docker, Mesos et compagnie, accrochez-vous.
L'objectif, effectivement, c'est
on va simplifier tout ça.
On va simplifier un petit peu tout ça. Donc, juste comme ça, juste pour retenir, c'est qu'il y a eu une première annonce au mois d'août, fin août.
Ouais.
Qui disait l'entreprise Mesosphere va porter sa solution qui s'appelle DCOS. Data Center Operating System, et ça on va en parler juste après, va le porter également dans le monde Windows. Ça, c'est très important, c'est-à-dire pour pouvoir orchestrer des charges sur des serveurs Windows et pas que sur du serveur Linux, ce qu'ils font aujourd'hui. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, on a eu la DockerCon qui a eu lieu le 29 septembre 2015. Et dans cette DockerCon, effectivement, on a annoncé un nouveau service.
Ah oui, le fameux Azure Container Service.
Alors, Effectivement, nous, quand on a écouté ça, la première chose qu'on a fait, c'était de foncer vers les consoles d'administration pour essayer de voir comment se matérialiser.
Mais où est ce service ?
Parce qu'en fait, le service a été cité, mais il n'a pas été réellement démontré ni explicité. Du coup, un peu de frustration, on se dit, bah, finalement, est-ce que c'est juste une annonce ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, etc. Alors, première chose, à quoi sert, enfin, à quoi va servir, au futur, je parle, le Azure Container Service ? En gros, son objectif principal, c'est d'aider et de simplifier la création et la configuration de clusters de containers. Donc c'est quoi un cluster de containers ? Cluster de containers, c'est en gros un ensemble de Docker host, ou de serveurs de containers, pour faire simple, enfin de Docker host, qui donc exécutent des containers, d'accord, chacun séparé, et qui sont pilotés par un mécanisme de management, ce qu'on appelle un cluster de management, qui va en fait orchestrer et distribuer les charges sur les différents serveurs. L'idée étant de pouvoir de faire du scale-out, donc de rajouter des instances de moteurs Docker pour pouvoir rajouter plus de puissance, et également de répartir la charge et les traitements sur les différents hôtes.
Donc c'est la répartition de charge et...
De l'administration centralisée, parce qu'en fait, on passe par un point central d'administration, et derrière, en fait, ça envoie sur tous les Docker hosts. C'est-à-dire qu'on simplifie, au lieu de gérer chaque environnement de manière unitaire, on gère un pool de ressources. Ouais. Et ouais. C'est le management du cluster comme ça qui va distribuer après
l'endroit où
se renvoyer les ressources.
Ok. Donc simplifier la création et la configuration de clusters de containers.
Alors cluster de containers, du coup on pense à Docker Swarm, parce qu'effectivement je vous en ai parlé tout à l'heure, Docker Swarm ça sert à avoir un seul point d'entrée. C'est-à-dire l'administrateur, le DevOps, il parle à Docker Swarm, il lui dit bah, déploie-moi des containers, tant de containers par exemple. Et Docker Swarm automatiquement en fait ensuite envoie sur tous les Docker hosts la même instruction et va instancier les différents conteneurs.
Mais ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Docker Swarm n'est pas recommandé pour des environnements de production aujourd'hui. Et en plus, en écoutant un petit peu ce qui se dit dans le milieu des gens qui connaissent bien Docker et compagnie, Docker Swarm ne monte pas en charge à des niveaux qui sont nécessaires pour certains gros utilisateurs de très gros volumes de conteneurs.
Exactement, même si c'est des cas un peu exceptionnels. Effectivement, Docker Swarm était encore dans ses prémices. Et il n'a pas encore cette historique, entre guillemets, cette maturité, si on peut parler de maturité quand on a moins d'un an d'existence. Mais l'idée, c'est ça. Donc, le Azure Container Service, c'est quoi ? Eh bien, c'est combiner deux choses. C'est combiner d'un côté tout ce qu'on sait faire sur Azure, donc la plateforme Azure pour pouvoir instancier des VM, des réseaux virtuels, des load balancers, etc. Et associer le tout avec un produit commercial, je précise bien commercial, qui s'appelle DCOS, Data Center Operating System, qui est un produit en fait qui est vendu, alors qui est disponible en édition communautaire, mais elle est limitée. Globalement, le produit est vendu par une société qui s'appelle Mesosphere.
Mesosphere.
Donc, Mesosphere est un éditeur. Ce n'est pas un produit en tant que tel, c'est un éditeur.
Donc Mesosphere, c'est l'éditeur qui fournit notamment, donc à part des COS, mais des produits comme Mesos et autres dont on va parler.
Et bien en fait, Mesos, Marathon, Chronos, etc., tout ça, ce sont en fait des composants de DCOS.
Voilà.
Donc, pour sélectionner pour Azure Container Service, on utilisera les composants suivants. Donc, on va utiliser Apache Mesos, je vous en parlais tout à l'heure. Donc,
Apache Mesos, c'est ce qu'on appelle aussi Mesos, pour faire plus court, Apache faisant référence à ce mode de licence.
Exactement, parce qu'à l'origine, effectivement, tout ça, c'est des bouts de composants de code libre. C'est juste qu'ils ont été bien packagés après, avec des interfaces supplémentaires, et du support, et pas mal de choses qui sont en fait fournies dans le pack payant de Mesosphere.
Donc on va y revenir, mais Mesos, en gros, c'est la gestion de cluster.
Oui, on va y revenir après, l'idée c'est ça. Ouais. Mesos gère le cluster en gros. On va avoir un autre composant qui s'appelle Marathon. Marathon, on va en parler également tout à l'heure, ça sert en gros à l'équivalent du process init de Linux. Ça permet de démarrer en gros des tâches, pour faire simple, et de vérifier que les tâches s'exécutent longtemps dans le temps.
Des services, quoi.
Des services,
qui doivent être up
tout le temps.
Le plus possible.
C'est-à-dire
que
si ça tombe, le Marathon est capable de redémarrer le service, de redémarrer le démon ou la tâche, voilà, ou l'application.
Par exemple, il peut surveiller que les conteneurs sont bien là sur les VM.
Par exemple. Et puis on a Chronos, qui lui est un planificateur de tâches, on va dire. Donc Chronos, c'est un petit peu un cron distribué, je ne sais pas comment dire en langage Linux.
Les deux,
voilà, Game of Cron. Voilà. Donc, dernier point, donc dans cet Azure Container Service, en fait, on a annoncé, donc la société Mesosphere plus Microsoft, on a annoncé qu'on développait également des outils pour intégrer au sein de cet Azure Container Service quand même, Docker Swarm et Docker Compose, qui, même s'ils sont aujourd'hui dans un état qui est normalement non prévu pour la production, certains font le pas de l'utiliser. Donc, on va l'intégrer.
Donc Azure Container Service, c'est Azure plus certains composants de DCOS, de Mesosphere, Mesos, Marathon, Kronos, et puis il y aura du Swarm et du Compose.
Exactement. Ça fait quand même beaucoup déjà de termes derrière.
Ouais, ça fait pas mal. Ouais.
Donc, on parle de la société Mesosphere, mais finalement, elle fait quoi cette société Mesosphere ? En fait, elle fournit une solution, un pack de solutions logicielles qui va permettre en fait de gérer des clusters applicatifs comme ça, donc avec des machines qui vont exécuter dans notre cas des containers Docker, et puis des machines qui vont gérer en fait la distribution des containers sur différents Docker hosts. Donc l'idée, en fait, c'est pour l'administrateur, le DevOps, le sysadmin, de parler avec un maître d'administration du cluster, un nœud de management principal, de lui envoyer les ordres, et après c'est le nœud qui s'occupe de répartir la charge et les containers sur les différents Docker hosts en fonction des ressources disponibles en termes de CPU, containers déjà existants, etc. etc. Donc le challenge vraiment, c'est en gros de simplifier en fait la gestion d'infrastructures qui peuvent scaler jusqu'à des dizaines de nœuds, des dizaines de serveurs host, Docker host.
Ou même beaucoup plus d'après ce que j'ai
Exactement.
Pu voir également.
Exactement. Donc en gros, on va dire que le package de solutions de Mesosphere, il va apporter plusieurs choses. Il va apporter tout ce qui est montée en charge, tolérance de panne,
oui.
Self-healing, ce qu'on peut traduire par guérison...
Guérison automatique.
Et puis tout ce qui est schedule d'application, donc exécution sur le long terme ou exécution ponctuelle de certaines actions. Et donc en fait, Mesosphere englobe l'ensemble de ces différentes technos sous la forme d'un produit. Le produit s'appelle DCOS, Data Center Operating System. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Mesosphere aujourd'hui et DCOS fonctionnent sur AWS, donc Amazon Web Service. Et prochainement, c'est tout d'accord, Microsoft Mesosphere, prochainement sur Azure et la Google Cloud Platform.
Voilà.
Alors si on regarde un peu dans le détail, les éléments qui constituent en gros le package de Mesosphere, on va avoir réellement la solution qui permet de gérer le cluster. Le management du cluster, ça s'appelle Mesos. Donc c'est vraiment le cœur de le kernel de DCOS.
Il y a toute la mécanique entre les masters, les agents, enfin les
Exactement,
les
nœuds, entre les maîtres et les esclaves, ou les maîtres et les agents, ça dépend du vocabulaire. Donc Mesos, en fait, ça a été co-créé par Benjamin Hindman. Et Benjamin Hindman, en fait, c'est un des cofondateurs de Mesosphere. Donc en gros, on va voir qu'il y a d'autres composants utilisés par Mesosphere. Proposé par Mesosphere, dont en fait les créateurs sont désormais des membres à part entière de Mesosphere.
Normal,
ça se comprend tout à fait. Et en fait, pour dire, quand on parle de scalabilité, Mesos, en termes de cluster, c'est capable de monter jusqu'à 10 000 nœuds. Ça fait de l'isolation de ressources et des tâches au travers des containers Linux.
Donc 10 000 nœuds, on entend 10 000 machines
Linux.
Qui sont des machines qui vont héberger elles-mêmes des containers.
Voilà, on parle de 10 000 machines Linux, qui là on parle de containers, mais ça pourrait être d'autres tâches sous Linux. Ouais. C'est assez énorme.
On parlait de centaines de milliers de containers, voire.
Exactement. Mesos, en fait, le système de gestion du cluster, il va également gérer l'organisation et l'orchestration pour équilibrer tout ce qui est CPU, gestion de la mémoire, etc. Donc en gros, tu sais, souvent, quand on parle de cloud, on dit qu'on met en commun les ressources et qu'on voit une vue globale en termes de j'ai tant de CPU et j'ai tant de mémoire. C'est exactement ce que fait en fait Mesos. Mesos, il vous expose même dans la console, il vous dit, sur l'ensemble de vos nœuds, ça vous fait un ensemble de 30 CPU, par exemple, et de, 256 gigas de mémoire. Voilà. C'est vraiment le travail qu'il fait. Il a donc une interface, bien entendu, une UI graphique, il est pilotable entièrement en API et en ligne de commande.
Avec un portail web, très bien.
Voilà, on est dans le monde Linux. Pour donner des exemples d'utilisation de Mesos, donc de ce composant global qui est dans le DCOS, Mesos est utilisé par Twitter, notamment, et il est également utilisé dans Siri. Enfin, Apple a dit effectivement qu'ils utilisaient Mesos pour leur troisième génération d'applications Siri. Et voilà, donc c'est C'est quelque chose qui a déjà fait quelques preuves et qui marche plutôt bien. Donc là, on a vu un premier composant finalement de ce qu'on a dans des COS qui est vendu par Mesosphere. Le deuxième composant qui est super important, il s'appelle Marathon. Alors, Marathon, lui, il a été créé par Tobias Knop, qui actuellement travaille chez Mesosphere, et par Florian Lébert, qui lui-même est également un cofondateur de Mesosphere. Donc, tous ces gens qui ont créé des outils qui ont commencé à être utilisés se sont rassemblés et ont fait leur entreprise pour gagner de l'argent. Et donc Marathon, en gros, c'est l'utilitaire dans Mesosphere, enfin dans des COS, qui permet de faire du scheduling de tâches longues, on va dire en gros la gestion de démons de services, si on pourrait dire ça. Donc ça permet, en fait, on peut dire que c'est le init, le système init de... Mais amené à l'échelle d'un cluster, en fait.
Voilà, exactement. C'est ce qui rajoute l'aspect échelle dans tout ce qui est gestion des services, des démons, enfin des...
Exactement. Donc ça permet de démarrer, d'arrêter des services. Mmh. On peut planifier des tâches. On peut être certain que quand la tâche, elle tombe, elle soit à niveau réinstancier, redémarrer. Voilà. Quand un conteneur tombe, quand on réinstancie un conteneur.
Mais tout ça à l'échelle, sur des milliers de...
Exactement, à l'échelle, et entièrement pilotable, scriptable, enfin voilà, c'est super puissant. Les différents jobs, donc les différentes tâches qu'on va demander à Marathon d'exécuter sur le long terme, on peut les fournir effectivement directement via une interface web, ce qui probablement est la première étape quand on commence à débuter sur Marathon. En fait, dans l'usage réel, c'est directement pilotable par une API, ou alors on peut directement également injecter des configurations de tâches directement sous la forme de fichiers JSON, donc du déclaratif. Et là, on est réellement sur de l'infrastructure as code, comme on commence à entendre parler de plus en plus. Alors Marathon, tu vois Mesos, j'ai dit tout à l'heure que Mesos était utilisé par Apple pour la partie Siri et également sur Twitter. Oui. Alors Marathon, c'est un truc qui est vraiment pas mal utilisé, enfin pas mal, oui, qui est quand même utilisé dans plein d'entreprises. Là, on est dans le monde du web et du service, hein, c'est, tu t'en doutes bien, des choses qui ont besoin de passer à l'échelle. Donc c'est utilisé par Airbnb, c'est également utilisé par eBay, du coup PayPal également, parce que PayPal à l'époque c'était eBay, donc Airbnb, eBay, PayPal, Groupon également, Yelp, tu sais, les services qui te font tout ce qui est restaurant sur mobile, etc. Mm-hmm. C'est également utilisé par Viadeo. Voilà, donc c'est... C'est plutôt, ça a déjà fait ses preuves entre guillemets, voilà.
Oui, eBay, c'est pas un petit acteur quand même. Oui.
Donc, non, c'est pas du tout un petit acteur.
Ok.
Donc on a fait quoi ?
On a fait la page Mesos
et on a et fait Marathon. Bah, le troisième gros composant qu'on a dans des COS, c'est Chronos. Et donc Chronos, c'est encore un framework de Mesos, et ça a été développé à l'origine par Florian Lébert, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un des cofondateurs de Mesosphere, et c'est lui qui est un des co-développeurs de Marathon. Donc on a Marathon d'un côté pour les tâches sur le long terme, la gestion des services, et puis on a Chronos, en fait, qui est un planificateur de tâches, en gros, hein, basiquement. C'est l'équivalent à l'échelle d'un cron. Sous Linux. Et en fait, il a été développé à l'origine chez Airbnb. Par ce fameux Florian qui a quitté Airbnb et après a monté Mesosphere, puisqu'il fait partie des cofondateurs.
Donc Marathon pour les tâches, les services, quoi. Et Chronos pour les tâches planifiées.
Voilà, planifiées, distribuées.
Je ne sais pas, ça peut être n'importe quelle tâche.
Là encore, ça inclut tout ce qui va bien comme API pour la partie scripting et le scheduling. Et puis il y a également une interface web spécifique à Chronos. Donc ça, c'est rigolo parce qu'en fait, on a une solution qui s'appelle DCOS, mais chacun des composants a sa propre interface parce que c'est trois produits, entre guillemets, ou trois composants logiciels qui sont assez indépendants quand on les regarde comme ça indépendamment. Et en fait, DCOS apporte en plus des interfaces web et des dashboards qui, eux, intègrent tout ça et en font quelque chose de super cohérent. Donc dans Mesosphere, en fait, Chronos, il vient vraiment compléter Marathon parce que ça fournit simplement un autre moyen d'exécuter des applications, cette fois-ci conformément à un agenda, une planification ou d'autres conditions. Donc par exemple, tu peux dire, si un job est terminé, à ce moment-là, je déclenche ce truc-là. Voilà. Donc il est capable, en fait, Chronos, de déclencher en fait, des jobs sur plusieurs nœuds Mesos. Donc les fameux esclaves, là où il y a les tâches qui tournent. Et puis, il peut remonter également des statistiques sur combien il y a eu d'échecs, combien il y a eu de succès, enfin voilà. Donc ça, c'est les, on va dire, les trois gros composants les plus importants de DCOS. Il y en a d'autres également. Mais donc, on comprend que, du coup, avec, avec la gestion du cluster, plus le lancement de démons, la gestion de démons, plus la planification de
tâches,
le classificateur de tâches, on a déjà une bonne solution qui entre guillemets, permet de faire pas mal de choses. Et bien, en fait, toutes ces choses-là, le but, effectivement, c'est de faire en sorte que toute cette infrastructure pour gérer un cluster, elle soit montée facilement, en fait, pour après déployer des containers Docker sur Azure.
D'accord.
Donc Azure Container Service, en fait, l'idée, au final, c'est de masquer la complexité de configurer des clusters comme ça, de type Mesos, avec les outils derrière, de masquer ça à l'utilisateur pour faire en sorte qu'en fait, ils disent, ouais, je veux déployer un certain nombre de containers Docker, je sélectionne mes containers, et derrière, toute la mécanique, la création de ces clusters, elle soit automatisée au maximum. Alors ça, c'est l'objectif.
Ça, c'est l'objectif.
Du coup, tu devrais me dire, on en est où de l'objectif ?
Où en est-on de l'objectif, oui, exactement.
Eh bien, aujourd'hui, en fait, on n'a pas, donc, je l'ai dit, on n'a pas d'interface, graphique pour tout ça. Donc, l'objectif, c'est d'avoir, dans la plateforme Azure, des interfaces pour masquer toute cette complexité, et également une API, et d'avoir ce qu'on appelle un provider ARM. Donc un provider ARM, c'est en fait ça s'accède par une API.
Ça
permet de créer des objets. Voilà, ça permet de créer des ressources dans Azure. Donc, il existe par exemple des ARM providers pour créer des machines virtuelles.
Exactement. D'accord.
Et ben là, il va y en avoir un qui sera en fait un modèle ARM, qui sera le Azure Container Service provider. Et donc du coup, au lieu d'avoir aujourd'hui des scripts très complets pour être très compliqués, des modèles pour pouvoir déployer tout cet ensemble de clusters et ces différents nœuds, etc. Où là, effectivement, on a des scripts qui font quelques centaines de lignes. Ça marche, mais ça fait quelques centaines de lignes. Là, en quelques lignes, en fait, on sera capable de provisionner des plateformes complètes avec des clusters basés sur des COS et des containers Docker qui tourneront sur les nodes esclaves.
Sur les esclaves,
oui. Exactement.
Et puis, si, quand on parle également de ressources, de service provider pour Azure Resource Manager, ARM, ça veut dire également des providers pour la partie scriptable, pour PowerShell d'ARM.
Bien entendu.
Et donc une simplicité de déploiement via... Si vous avez des environnements à base de PowerShell, vous utilisez PowerShell, PowerShell DLC pour vos déploiements, il y aura une interface assez simple pour gérer tout ça.
Du coup, tu vas me dire, oui, mais pour la montée d'échelle, donc on va avoir un provider pour créer ces fameux clusters, mais comment on va faire en sorte que derrière, les clusters puissent grossir et rajouter des instances en termes de nouveaux serveurs Docker, par exemple, à l'intérieur. Parce que là, pour l'instant, on a parlé de management, on n'a pas parlé de déploiement de nouveaux nœuds à l'intérieur de manière automatisée. Et bien là encore, on va avoir un nouveau service qui, prochainement, qui va s'appeler Azure Virtual Machine Scale Set, l'acronyme en 4 lettres, ou 5 lettres, non, 4 lettres, VMSS. Et en fait, ce service-là, qui sera pilotable par API également, permettra également d'instancier des nouvelles ressources sur une base, dire voilà, j'ai un applicatif, donc ici par exemple ça pourrait être un serveur Docker, et je vais pouvoir faire du scale-out, donc c'est-à-dire recréer à côté des nouvelles instances. On sait le faire aujourd'hui sur les sites web, donc les sites web on sait très facilement rajouter des instances dans les web services d'Azure, et bien là on va pouvoir faire ça mais à l'échelle d'une machine virtuelle. Donc ces machines virtuelles, ben là typiquement ce seront les machines qui seront les nœuds esclaves d'un cluster Mesos, et du coup on pourra faire grossir ce nombre de nœuds en fonction de la demande.
Et réduire également.
Et réduire scale-out et réduction également. Donc, pour revenir sur ce qu'on a maintenant techniquement de disponible...
Voilà, concrètement aujourd'hui, est-ce qu'on a des choses
oui.
Qu'on peut tester?
Alors, la première chose qu'on peut tester, ça s'appelle en fait... Donc c'est basé sur un modèle ARM. Donc tu sais que dans Azure, désormais, on peut déclarer de l'infrastructure de manière déclarative au travers d'un fichier JSON. D'accord. Donc ça s'appelle un modèle ARM, Azure Resource Manager. Et ça permet comme ça, à partir d'un fichier descriptif, de déployer une infrastructure complète avec les différents composants qui la constituent. Parce qu'on a fait, on a travaillé en fait avec, avec les gens de Mesosphère, notamment. Mmh. Et aujourd'hui, il existe un modèle dans la galerie des exemples d'Azure, qui s'appelle le Mesos Swarm Marathon. Et en gros, simplement avec un bouton ou un script PowerShell, et en faisant passer quelques arguments, on est capable aujourd'hui de déployer de manière complètement automatisée et en quelques minutes un cluster qui intègre en fait Mesos. Donc on va avoir en fait un cluster complet, c'est-à-dire qu'on on va avoir les nœuds de management. Donc sur les nœuds de management, on aura Docker installé, Docker Swarm installé, Mesos, Marathon, Chronos.
Et Swarm optionnel. Oui.
Et Swarm est optionnel. Voilà.
Je t'ai vu faire cet après-midi et je dois dire que c'est bluffant quoi. Ça a pris à peine quelques minutes.
Oui, quelques minutes. Ouais. Quelques minutes pour déployer effectivement les nœuds de management.
Donc au niveau des nœuds de management, on a le choix entre 1, 3 et 5.
Exactement, en fonction de la taille après derrière. Donc 1, 3 et 5, on est toujours sur des nombres impairs parce que on a un système d'élection des managers et de surveillance mutuelle de leur santé. Donc il nous faut un nombre impair pour être certain qu'effectivement, il y a toujours un gagnant dans l'élection. Mm-hmm. D'accord. Donc 1, 3 ou 5 nœuds managers. Et ensuite, d'ailleurs, on choisit le nombre de nœuds esclaves, c'est-à-dire ceux qui vont réellement faire tourner les tâches. En l'occurrence, ici, ce sera nos VM Linux avec le moteur Docker au-dessus, qui font tourner après les containers. Et là, on choisit combien on en veut derrière.
Tu avais mis 10
Ouais, je crois que j'avais mis 10 cet après-midi.
Et ça a été très rapide. Il y avait quelques noms à mettre, évidemment. Le nom du cluster de management, le nom de la machine. Il y a ce qu'on appelle une jumpbox dans le modèle.
Il y a également une jumpbox, c'est une machine d'administration sur laquelle on rebondit. Donc celle-ci, on l'expose sur Internet. Et on se connecte soit en RDP si c'est une machine Windows, soit en SSH si on est sur du Linux. Et elle sert après à aller se connecter directement au manager, au cluster de management. Et donc, du coup, depuis cette machine d'administration, on envoie les commandes au cluster de management. Et c'est le cluster de management avec les outils Mesos, Marathon et Chronos qui vont en fait envoyer la charge et démarrer les instances et les tâches sur les différents nœuds esclaves qui, eux, constituent en fait vraiment les nœuds qui exécutent ce qu'on veut exécuter au final. Voilà.
Donc aujourd'hui, on a un template dans ce qu'on appelle Azure Quick Start Templates que vous allez trouver. Enfin, on mettra le pointeur évidemment vers ce template. Donc, vous pouvez regarder aussi le template puisque c'est un fichier texte, un fichier JSON. C'est finalement un fichier très facile à lire.
Ouais. Bon, alors celui-ci,
c'est pas ce qu'il y a de plus facile à écrire, mais c'est pas compliqué à lire.
Il est moins facile à lire parce qu'il est très long, très complexe. On a fait un déclaratif. Ouais. On a déclaré quand même une infrastructure qui contient. Quand la monte au maximum, je crois, 10 plus 5, plus, on est à 16 machines quand même qui sont déployées. On a deux load balancers, on a des VNet à l'intérieur, on a un seul VNet où tout le monde communique. Il y a du stockage également pour les différentes ressources, donc ça fait c'est quand même un template qui est relativement complexe. Et derrière, ce template appelle également des scripts de configuration Linux, donc des points .sh, pour faire la configuration de manière complètement automatisée, du cluster de management Mesos, Marathon et Chronos, et puis également la configuration complète des nœuds Docker, plus le Swarm qui est optionnel. Donc ça fait vraiment, il y a un paquet de configurations, mais ça a été le modèle fonctionne super bien, effectivement, en quelques minutes, pour peu qu'on rentre les bonnes informations, les noms d'admin, les noms de machines, les noms des comptes de ressources, on déploie avec un cluster qui est 100% opérationnel.
C'est impressionnant. Imaginez ça dans une chaîne de production un petit peu continue, à la mode DevOps, puisqu'on est dans l'infrastructure as code avec ces modèles JSON.
Clairement, oui.
Donc c'est clair, c'est super intéressant.
Ça change
vraiment les modes d'administration et de test, d'élèves, etc.
C'est vraiment super impressionnant, la vitesse de déploiement de ces choses-là. Donc ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à terme, d'ici quelques mois, on n'aura plus forcément besoin d'un énorme modèle comme ça à utiliser, mais on aura simplement en fait une API et une ligne de commande quasiment pour pouvoir déployer cet équivalent, quoi, pour peu qu'on donne les bons arguments derrière. En espérant même qu'on aura également une interface entre guillemets graphique pour faire ça, ce dont je suis quasiment certain.
Ok.
Donc là, on a parlé quand même de pas mal de choses qui étaient, on va dire, relativement nouvelles pour des personnes gravitant plutôt dans un environnement Windows, c'est-à-dire nous, on en fait partie également.
Bien sûr, ce qui ne nous empêche pas d'explorer un petit peu des mondes nouveaux et intéressants. Donc on a un état aujourd'hui d'intégration dans Azure qui commence à être quand même pas mal, entre les modes de container d'une part Docker et puis également ce qui viendra bientôt avec Windows Server 2016. Donc aujourd'hui, on a Docker Trusted Registry, donc ces registres privés dans Azure. On a l'extension Docker dans les VM Linux. On a le support de Docker Swarm et Docker Compose qui arrivent, puisqu'on a, on a également un template, un autre template dont on n'a pas parlé, qui permet de déployer très rapidement également en un seul coup, en un seul, ouais. une seule opération. Quoi.
Un cluster Swarm.
Un cluster Swarm avec du Compose.
Ouais. Donc là, on a entre guillemets moins d'intelligence qu'avec, qu'avec Mesos, Marathon et Chronos, qui a moins, moins d'intégration, etc. Mais techniquement, effectivement, ça permet, même en ne connaissant pas toutes les procédures d'installation des différents composants pour créer un Docker Swarm, là, en fait, on ne se pose pas la question, on dit, bah, j'ai besoin d'un cluster Docker Swarm, et on envoie la chose directement via le template.
Voilà, on a également, en termes d'outils et d'intégration avec les outils existants, la ligne de commande Docker CLI pour Windows. Mm-hmm. On l'a depuis longtemps, mais maintenant, elle va faire beaucoup plus de choses. On a l'extension Docker pour Visual Studio 2015. Ouais. Bientôt, donc l'API Docker qui va évoluer pour couvrir les containers Windows sur Windows Server 2016. Ouais. Et donc là, c'est un fort partenariat également avec, avec Docker, puisque ouais. Docker va fournir un composant qui fera partie de Windows Server. Quoi. Ouais. Enfin, aujourd'hui, on le télécharge. Alors, on ne sait pas encore en RTM si ça sera inclus ou toujours externe à télécharger. Mais,
et mais puis, bah, cas, l'arrivée de DCOS, donc ce package complet avec Mesos, Marathon, Chronos et d'autres choses à l'intérieur, qui lui pourra également s'appliquer sur des serveurs Windows. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra piloter en gros des groupes de serveurs Windows depuis en fait le cluster de management de Mesos. Donc, tu vois, on reboucle sur l'histoire de Docker va savoir piloter des containers Windows exécutés sur des serveurs Windows, va être capable de piloter des containers Linux sur des serveurs Linux. Et ben, du coup, on aura DCOS qui pourra piloter également tout cet ensemble et répartir également de la charge, distribuer des tâches en fait, soit sur des machines, des nœuds, des agents Linux, soit sur des machines Windows, en fonction du besoin. Donc le futur semble plutôt intéressant à ce niveau-là, et du coup ça explique un petit peu pourquoi effectivement Microsoft s'associe avec ces acteurs émergents, c'est des acteurs émergents clairement, simplement parce qu'ils répondent à une vraie problématique aujourd'hui, principalement des applications web en B2C, parce qu'il y a besoin d'une scalabilité qui peut être très variable en fonction de la demande des clients par rapport à la plateforme, mais du coup de très rapidement répondre à des besoins de déploiement automatisé de plateforme. Là encore, le modèle déclaratif permet également de faire des choses qu'on ne savait pas faire il y a quelques années, c'est-à-dire d'être capable de manière idempotente de déployer une infrastructure complète et son applicatif au-dessus.
Donc le conseil, hein, si vous n'avez pas encore touché au modèle de IaaS V2, comme on peut dire, sur Azure, c'est-à-dire le modèle ARM, Azure Resource Manager, vraiment, mettez-vous-y. Cette histoire de fichiers de JSON, ce n'est pas si compliqué que ça, à comprendre et à maîtriser, et à utiliser. On peut l'utiliser également depuis PowerShell, ou depuis, évidemment, Azure CLI, si vous êtes en Linux. C'est un point de départ. Ensuite, c'est une belle occasion également de regarder des templates évoluer avec le nouveau template du cluster Docker Swarm et du cluster Mesosphere. Et puis voilà, vous êtes parti pour de belles aventures.
Exactement. Et honnêtement, ça devient assez intéressant. On est sur un niveau d'automatisation qu'on n'a jamais atteint parce qu'effectivement, on n'a plus les mêmes technos derrière et on a une agilité qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Déjà, essayer de déployer rapidement 50 VM, c'est pas facile. Là, en fait, on est vraiment sur un autre mode opératoire. Alors, qui
la
est
petite
vraiment...
boucle fort dans PowerShell pour faire mes 50 VM, bah, je la montre plus, celle-là.
Ouais, du coup, ouais, ça fait un petit peu old school, on pourrait dire. Ouais. C'est en tout cas, tous ces technos-là sont extrêmement utilisés dans la Silicon Valley, qui, on peut le dire, hein, c'est une sorte de laboratoire technologique pour le futur des systèmes d'information. Donc ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps, au moins en avoir la compréhension, en attendant la maturité de la plateforme qui va effectivement arriver d'ici les prochains mois, entre les différents travaux de collaboration entre Microsoft, Docker et Mesosphere.
Donc on parle de ces sujets-là également dans certains cours MVA, donc n'hésitez pas à aller voir sur la plateforme des cours Microsoft Virtual Academy, sur les différents événements qui sont filmés, enregistrés également de temps en temps. Et puis, Stanislas, je te remercie.
Je te remercie, Pascal. J'espère que ça a été assez clair. Sans schéma, sans rien, c'est un peu plus difficile en podcast. Mais
on mettra les pointeurs, évidemment, avec l'article. D'accord. Un bon week-end à tout le monde. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis, on se retrouve dans deux semaines. Au revoir.
Au revoir.
Si vous avez tenu jusqu'à maintenant, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur Docker dans Azure.
et que vous pourrez le tester assez simplement avec nos templates dont on a parlé. En attendant, bon week-end, voire bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis, merci de votre fidélité. Et à très bientôt dans 2 semaines.